L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouad, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios, à Moscou, Karine Bechegolovko, professeure de droit, invitée à l'Université d'État de Moscou. Avec elle, nous allons décortiquer la nouvelle aide de près de 61 milliards de dollars à l'Ukraine, votée récemment par le Congrès des États-Unis. Cette démarche intervient dans le contexte des discussions occidentales sur l'utilisation des avoirs russes gelés, dont la plus grande partie se trouve en Europe, pour aider Kiev. Nous nous arrêterons également sur les récentes déclarations du président polonais sur la possibilité de stationner des armes nucléaires US dans son pays. À tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. La dette fédérale des États-Unis vient d'arriver au seuil fatidique de près de 35 000 milliards de dollars. Il faut bien avoir en tête que ce montant ne constitue en réalité que près de 30% de la dette globale du pays, qui fait de l'État le plus endetté au monde. En effet, la dette totale américaine se calcule en y incluant, en plus de la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières. Ainsi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 100 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Si l'on rajoute l'ensemble des actifs et des engagements en bourse, qui sont également des dettes, on arrive à plus de 300 000 milliards de dollars. Ce montant est équivalent à 1200% du PIB américain et près de 290% du PIB mondial. Au cours de l'année 2024, près de 10 000 milliards de dollars de bons du Trésor arriveront à échéance, ce qui représente près de 30% de la dette des États-Unis. Le gouvernement américain enregistre un déficit trimestriel de 1 000 milliards de dollars. Par conséquent, d'ici la fin de 2024, la Fed est tenue de mettre sur les marchés près de 13 000 milliards de dollars. Cette mesure va entraîner une augmentation de la masse monétaire et de l'inflation à des niveaux historiques. Ainsi, à se croire dans un film de science-fiction et contre toute attente, cette dette US abyssale n'a pas empêché le Congrès américain de voter le 20 avril une nouvelle aide militaire groupée de 95 milliards de dollars, essentiellement pour l'Ukraine, 61 milliards, Israël, 13 milliards et Taïwan, 8 milliards. Le choix est encore une fois celui de la guerre au détriment des intérêts nationaux aussi bien américains que ceux de leurs alliés, notamment européens. L'enveloppe de 61 milliards de dollars n'est pas à 100% militaire, ni à 100% directement pour l'Ukraine. Plus d'un tiers du montant, soit 23,2 milliards de dollars, est consacré au réapprovisionnement des systèmes d'armes et de munitions de l'armée américaine. Près de 14 milliards de dollars seulement sont prévus pour permettre à l'Ukraine de se réarmer en achetant des équipements et des munitions à l'industrie de défense américaine. Près de 15 milliards de dollars seront consacrés à des services de soutien tels que la formation militaire et l'échange de renseignements. Enfin, 9 milliards de dollars d'assistance économique et budgétaire à l'Ukraine qui doit se faire sous forme de subventions ou de prêts à remboursement conditionnel. Sur ce montant, 7,4 milliards sont destinés à aider le gouvernement ukrainien à poursuivre ses activités de base et 1,6 milliard est prévu pour aider le secteur privé ukrainien. C'est dans ce contexte que les autorités russes ont réagi à l'adoption d'une loi qui met sur la table la possibilité du vol des avoirs russes gelés en Occident pour financer l'aide à l'Ukraine. À ce titre, la présidente de la Chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, affirme lors d'une déclaration à Spoutnik que l'idée des pays occidentaux d'utiliser les avoirs gelés russes pour financer l'Ukraine va détruire l'économie mondiale.
Это, в принципе, беспрецедентный будет в истории мировой шаг.
C'est en principe un pas sans précédent dans l'histoire du monde qui va simplement détruire l'économie mondiale, détruire la confiance dans l'économie mondiale. Et bien sûr, il est absolument illégal, illégitime. Et en Europe, tout le monde comprend que ça ne peut pas être fait. Mais encore une fois, quand ils nous ont préparé des paquets de sanctions, les Américains se sont protégés, mais les Européens savent qu'il y aura une réponse très dure de notre part. Nous avons un projet de loi que nous sommes prêts à examiner immédiatement, la riposte. Et les Européens vont perdre plus que nous. Et bien sûr, ils ont peur de cela.
Et pour cause, les chiffres de la croissance enregistrés dans les principales économies européennes font état d'une économie à l'arrêt et en pleine déconfiture. En effet, de 2017 à 2023, l'Allemagne a eu 0,1% de croissance par an, l'Italie 0,2%, la France 0,5%, l'Espagne 0,6%. Le Royaume-Uni est à un peu moins de 1% par an. Plusieurs raisons sont évoquées par de nombreux experts pour expliquer la politique économique néolibérale contre-productive menée par Bruxelles. Elle a entraîné une désindustrialisation à cause du libre-échange avec les pays à bas salaire, un recul flagrant dans les industries d'innovation au profit notamment des pays émergents et bien sûr le vieillissement de la population. Les États européens sont aujourd'hui en très mauvaise posture avec peu de croissance, de gros déficits publics et des dettes publiques très élevées. À titre d'exemple, la dette publique de la France, dont le président ne rate aucune occasion pour tenir des propos belliqueux à l'égard de la Russie et en soutien à l'Ukraine, est de plus de 3 101 milliards d'euros. Alors que la dette publique totale française, en tenant compte de la partie hors bilan, a connu une très forte croissance. Elle est passée d'un peu plus de 2 000 milliards d'euros en l'an 2000 à plus de 6 500 milliards d'euros, soit près de 250% du PIB du pays à fin 2023. Ainsi, l'Occident global, mené par la puissance américaine, a-t-il encore les moyens d'imposer sa domination en rivalité avec le monde multipolaire? L'aide promise à l'Ukraine a-t-elle vraiment des chances d'arriver à destination? Pour approfondir ce sujet fondamental de la géopolitique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Karine Bechegolovko, professeure de droit invitée à l'Université d'État de Moscou. Karine Bechegolovko, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour et merci à vous de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, Karine Bechegolovko, après 2 années d'opérations militaires russes en Ukraine, il est désormais clair que la Russie est en train de gagner et que l'Ukraine est désormais bel et bien brisée. Alors, tout cela en dépit des sanctions commerciales généralisées contre la Russie et du soutien total à l'Ukraine de la part de ses alliés occidentaux, tant en termes d'aide financière, humanitaire que militaire. Et l'OTAN s'est pratiquement désarmée pour fournir des armes et des munitions à l'Ukraine. Alors, ma première question, dans ce cas, peut-on dire qu'il fallait s'attendre à la répartition qui est annoncée de l'aide à l'Ukraine, c'est-à-dire où l'on voit qu'une grande partie va en réalité à l'industrie militaire américaine et pas du tout pour aller aider quiconque. Et dont la part du lion, justement, va à l'industrie des États-Unis, militaire des États-Unis.
Alors, je voudrais faire quelques précisions tout d'abord. Effectivement, oui, c'est logique de voir que toute une partie de l'aide qui est prévue soit en fait reportée sur l'industrie américaine pour la simple et bonne raison que c'est elle qui fournit les armes pour sa guerre qui se déroule en Ukraine. Donc, dans cette logique, il n'y a absolument rien de surprenant, en fait. L'Ukraine, quand vous dites que l'Ukraine est brisée, l'Ukraine, elle n'est même pas brisée, elle est inexistante. En tout cas, sur le plan juridique, soyons très clairs. Pour qu'un État existe sur le plan juridique, il doit être souverain. La souveraineté en droit constitutionnel, c'est la condition minimale d'existence juridique de l'État. S'il n'y a pas de souveraineté, il qu'il n'y a pas d'institution juridique sur ce territoire et sur cette, pour cette population qui s'appelle État. Il peut y avoir autre chose, mais il n'y a pas d'État. Et l'Ukraine, en 2004, après la Révolution Orange, a déjà vu son système politique brisé, pour le coup, avec ce troisième tour des élections présidentielles, je rappelle, organisé par qui ? Par l'OSCE. Mmh. Et ensuite, ça n'a pas été suffisant. Donc, ils ont écrasé, si, littéralement, la population ukrainienne dans le sang et dans la terreur en 2014 avec le Maïdan. Et par là même, ils ont détruit l'État ukrainien. Il n'y a plus d'État ukrainien. Donc, il n'est pas brisé. Il est absolument inexistant. Actuellement, c'est un protectorat qui est en place, qui est D'accord. dirigé de l'extérieur. Donc, ça explique, en fait, que tout ce qui soit envoyé là-bas, on envoie des armes, on envoie des conseillers, on envoie des munitions, on envoie des formateurs. On envoie aussi des militaires, on va être honnête, un petit peu quand même, parce qu'il n'y a pas que des humanitaires, volontaires...
Et des mercenaires aussi.
Et des mercenaires qui oublient d'enlever parfois leurs uniformes. Surtout quand ils sont morts, c'est dommage, on les retrouve. Donc, c'est un protectorat qui est entretenu, qui est géré, parce que il sert actuellement de zone de guerre contre la Russie. C'est le seul intérêt de l'Ukraine pour l'Occident aujourd'hui, c'est d'être un front.
D'accord.
C'est tout. C'est plus un pays. Donc, la question ici se pose un peu en d'autres termes. Et du coup, on en arrive à reposer la question un peu différemment. Quand on dit « la Russie est en train de gagner la guerre », oui, sur le front, on voit qu'effectivement, c'est vrai. Objectivement, comme on l'a dit de toute façon, l'armée ukrainienne, en tant qu'ukrainienne, a physiquement et objectivement disparu. Mmh. Avec la mort massive des hommes au combat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'armée. Ça veut dire qu'il y a une armée.
Puisque la guerre, elle n'est pas contre les Ukrainiens, mais contre les États-Unis
voilà,
et l'OTAN.
Voilà, tout à fait. Mmh. Donc, il y a toujours une armée en face. Et le problème qui se pose ici, c'est elle est où la victoire ? Et la question se pose en fait pour les deux parties.
Absolument.
Et si en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on comprenait que pour gagner, il fallait aller à Berlin, il fallait faire tomber Hitler, là, il faut aller à Kiev, oui, ça c'est clair. Faire tomber Zelensky ou qu'il parte en Pologne ou qui tombe dans la rue sous un drone, globalement, ça ne changera rien parce que c'est un pantin. Mmh. C'est, vous pouvez tuer un capitaine, par exemple. Vous n'allez pas gagner la guerre parce que vous avez tué un capitaine. A priori, Zelensky décide pas plus. Mais ça oblige à repenser ce conflit différemment parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'un conflit mondial classique. Mmh. Nous sommes dans le cadre d'un conflit global, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre entre les États qui se mène, c'est une guerre contre l'État qui se mène par un pouvoir globalisé qui utilise les structures étatiques en Europe, qui utilise le territoire ukrainien pour faire la guerre contre la Russie qui veut rester un État, c'est-à-dire qui veut être souveraine, qui veut avoir le droit de ses intérêts légitimes et de les défendre. Donc, dans ce sens-là, puisque nous avons en face de la Russie un système global, il est logique qu'il y ait une répartition. Et comme on voit la Grande-Bretagne qui a annoncé l'envoi d'armes, de renforcement, soutien militaire, comme on voit les institutions européennes, avec Borrell qui est censé s'occuper de diplomatie, qui ressemble beaucoup plus à un petit guerrier d'opérette. Tout ce système des institutions globales et du territoire de ce monde global est mis en œuvre pour faire la guerre contre la Russie. Pour l'instant, en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire que le terrain va s'arrêter ici.
Absolument. Absolument. C'est très clair. Merci. Et bien, alors, le 11 janvier, on avait déjà appris que le Conseil de sécurité nationale des États-Unis soutenait en principe un projet de loi qui permettait la confiscation des avoirs russes en vue de leur transfert ultérieur en Ukraine. Et Washington était soutenu dans cette démarche par le Canada, la Grande-Bretagne et le Japon. Mais d'autres pays membres en janvier, l'Allemagne, la France et l'Italie proposaient d'étudier attentivement la légalité de la confiscation des avoirs russes avant, comme si on doit se poser ce genre de questions, hein, quand on confisque, c'est déjà un vol caractérisé. Donc, avant qu'une décision ne soit prise, et puis la raison qu'ils évoquent justement pour laquelle cela se produit est claire, donc, parce que Washington lui-même admet pas plus de 2% de l'argent russe gelé qui se trouve directement aux États-Unis. Le reste se situe en Belgique et en Suisse. Donc 191 milliards d'euros de l'opérateur belge Euroclear et puis environ 19 milliards d'euros en France. Et si le plan américain donc, est mis en œuvre, l'Europe, il est clair qu'elle supportera tous les coûts directs et indirects. Et la possibilité d'une contre-confiscation reste le moyen le plus efficace pour dissuader l'Occident de s'approprier l'argent russe. Et dans ce cas-là, justement, selon certains rapports, en février 2022, la Russie disposait d'environ 700 milliards de dollars, principalement liés au secteur des entreprises, et je précise essentiellement européennes, qui pourraient être récupérées en échange. À votre avis, les dirigeants européens vont-ils affirmer la même position ou se plier à la volonté des Américains ? Finalement, ils vont céder. On se pose la question. Et puis, l'Europe est-elle en passe d'être à nouveau le dindon de la farce, passez-moi l'expression, comme lors du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ?
Il semblerait effectivement que l'Europe adore jouer le rôle du dindon. Parce que quand même, ça commence à se répéter. À chaque fois, tout se fait sur le dos de l'Europe. Mais comme de toute manière, il suffit que les États-Unis tapent un petit peu plus fort du poing sur la table pour que les pays européens cèdent, finalement, pourquoi les États-Unis devraient s'en priver ? Nous sommes, comme on l'a dit, dans un système globaliste. C'est-à-dire que vous avez un centre qui prend les décisions, il y a périphérie, les États satellites sont là pour obéir. Ils ne sont là que pour ça. Ils ne sont pas là pour décider, ils ne sont pas là pour avoir des intérêts souverains, puisqu'ils ne sont plus souverains, donc ils n'ont plus d'intérêt à défendre. C'est logique. Donc, ils doivent défendre les intérêts de ce monde global. Et là, effectivement, la répartition est intéressante, puisque aux États-Unis, on a 5-6 milliards à peu près, et en gros 210 milliards sur le territoire européen, avec une masse en gros de 300 milliards en dehors de la Russie, en Occident. En ce qui concerne la question de la légalité, c'est amusant qu'il soulève quand même cette question parce que oui, c'est illégal. Et la question se pose même pas. Et d'ailleurs, quand vous disiez sur le site même de Transparency International, la petite publication qu'ils ont faite, ils expliquent quand même très bien que justement, c'est gelé par décision politique puisqu'il n'y a pas de fondement juridique et il n'y a pas de décision judiciaire. Et que donc les actifs qui sont gelés restent la propriété de la Russie. Il n'y a pas eu de transfert de propriété. Ensuite, là où il commence déjà un petit peu à magouiller au niveau du droit civil, c'est qu'ils estiment que le droit de propriété, dans une version manifestement complètement réécrite des règles de droit civil depuis le droit romain, s'arrête au bien lui-même et ne continue pas sur les produits de ce bien. Ce qui, en fait, une révolution juridique, puisque ça remet en cause tous les principes du droit de la propriété depuis le droit romain. Donc là, on voit déjà que, de toute manière, ils sont dans une logique anti-juridique. Ils sont dans une logique strictement politique. Après, il faut comprendre que les règles de droit, au-delà de leur caractère absolu, ont une application qui est aussi, on va dire, modulée en fonction de ce qu'on appelle la légitimité. Ce sont les deux concepts qui permettent de moduler l'application du droit. D'un côté, la légalité. Qu'est-ce qui est écrit ? Est-ce que formellement, ça existe et ça s'est fondé ? Et la légalité, est-ce que le contexte est tel qu'il ne va pas pouvoir modifier les règles écrites ? Et en fait, l'Occident essaye de jouer là-dessus. Dans cette logique, ils disent que la Russie, c'est l'ennemi. La Russie elle-même viole le droit international. On n'a pas très bien compris où, mais elle le viole. Donc, si j'ai bien compris, c'est elle qui a organisé le Maïdan en Ukraine. C'est elle qui a conduit aux interventions dans les différents pays souverains. Non, ce sont les États-Unis. Bon, d'accord. Mais c'est quand même elle qui viole le droit international. Et puisqu'elle viole le droit international, les règles de droit n'ont plus à s'appliquer dans toute leur force à son égard, puisqu'elle n'est pas légitime à demander leur application. Vous voyez le transfert. Et c'est ce qu'on appelle en fait le droit de l'ennemi. Ça a été théorisé dans la théorie du droit, c'est-à-dire que les règles de droit, avec toutes les garanties, avec tout ce que ça apporte, ça ne compte pas pour l'ennemi. L'ennemi est en dehors de la zone de droit.
D'accord.
L'ennemi, il est dans la zone du conflit politique. Et c'est exactement cette frontière qui essaye d'être mise en place. Mais c'est extrêmement dangereux. Mmh. Si jamais l'Occident met en place ses règles, dans ce cas-là, ils vont rentrer dans le cadre d'une guerre totale, mais en même temps, une guerre qui va détruire le système dans lequel l'Occident existe. Mmh. Et ça, il faut qu'ils en aient conscience. Parce que non seulement la Russie, effectivement, va pouvoir réagir, et là, pour le coup, il faudrait dépasser le stade des « on n'est pas content, on va finir par se fâcher, je vous assure, on va finir par faire quelque chose ». Si, si, un jour, on va le faire. Là, maintenant, il faut le faire.
Ouais.
Et parce qu'on est dans un rapport de force politique. Si la Russie reste toujours dans les limites extrêmement formalistes qu'elle a du droit, dans ce cas-là, elle fait acte de faiblesse politique. Et ça ne peut pas s'interpréter autrement. Il faut être honnête maintenant.
D'accord.
Donc, et juste une dernière précision, la question qui se pose effectivement contre les actifs américains qui sont en Russie ou contre les actifs européens qui sont en Russie. En principe, on attaque qui ? On attaque le maître ou on attaque le facteur ? À mon avis, ce sont directement les actifs américains qui doivent être ciblés parce que l'ordre vient des États-Unis.
Ouais.
Et il faut cibler la source du problème. Je ne dis pas ça parce que je suis aussi française.
Mais on comprend.
La France m'intéresse.
Mais
même si la France m'intéresse, effectivement. Mais ça semble logique de taper la source du problème et pas les exécutants.
D'accord. Bien. Alors, l'un des arguments qui fait le plus débat parmi les va-t-en-guerre occidentaux est qu'ils peuvent dépenser 10 fois plus que la Russie en dépenses militaires. C'est peut-être vrai. Mais ce que ces dépenses peuvent réellement acheter est une toute autre question. Et puis, il faudrait dépenser 10 fois plus que la Russie, rien que pour suivre le rythme à peine de ce qui se passe sur le terrain. Alors, Karine Bechegolovko, le complexe militaro-industriel occidental n'est-il pas entièrement structuré autour d'objectifs de profit, ce qui a créé un système d'incitation pervers qui a rendu sa production inefficace à plus d'un titre. Et dans ce cas, le vol des avoirs russes n'est-il pas dans le but de remplir les poches en réalité des rentiers sans que l'Ukraine ne puisse avoir les armes promises ?
À mon avis, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement le fait que toute une partie de l'aide qui est envoyée à l'Ukraine est faite sous forme de prêts.
Mmh.
Or, on va être réaliste, l'Ukraine ne pourra pas payer.
Absolument.
Parce que, l'Ukraine a déjà disparu, deux, de toute manière, elle n'est pas solvable. Et à la fin du conflit, je ne suis pas certaine qu'il reste un bout de territoire qui s'appelle Ukraine et qui soit économiquement viable. Je ne parle même pas politiquement, mais au moins économiquement viable. Donc, il y a de fortes chances que, de toute façon, le territoire ukrainien revienne dans ses frontières historiques naturelles, c'est-à-dire rentre dans ses pays voisins, comme historiquement ce fut le cas. Puisque c'est quand même une création qui date, on va dire, quand même de 91, donc, en tant qu'autonomie. Donc, c'est la logique aussi de la spoliation des, en tout cas de cette volonté de spoliation des actifs russes, hein, c'est son retour sur investissement. C'est on a prêté, il faut être remboursé. On ne peut pas avoir deux décisions de justice internationale condamnant la Russie à payer, puisque logiquement, c'est ce qui se passe à la fin du conflit. Il y a une décision qui fisse, entre guillemets, une contribution de guerre. Là où on se prend la contribution avant la fin de la guerre. Bon, c'est une façon assez originale de voir les choses, effectivement. En revanche, il y a, il est vrai, un vrai problème au niveau de la production des armes, au niveau du financement de la production et au niveau de la formation des gens qui vont produire ces armes.
Absolument.
La Russie, si elle est rentrée dans la globalisation à la chute de l'Union soviétique, et si elle a, elle aussi, détruit quand même une partie de son industrie, parce que rappelez-vous qu'à ce moment-là, nous entrons tous, je ne sais pas pourquoi, dans le monde post-industriel. Alors, on consomme de plus en plus de ce qui est produit industriellement, mais pour une raison assez mystique, nous étions dans un monde post-industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la zone occidentale devait être désindustrialisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de production industrielle. Ça veut dire qu'il fallait affaiblir la zone européenne et la Russie en la désindustrialisant et déplacer les zones de production. La Russie a quand même gardé un tissu industriel qu'elle a pu réactiver, comme on le voit. Ça a été un peu difficile au départ, mais maintenant, quand même, ça tourne. La différence de l'Europe, qui, elle, a réellement, en 50 ans, été complètement désindustrialisée. Il reste quoi? Globalement, il reste, dans cette zone occidentale, la production de, fournie par les États-Unis. Donc, quand les États-Unis disent que il faut relancer, il faut reproduire plus d'armes, etc., il faut acheter plus d'armes, il faut aller les acheter chez eux, en grande partie. Donc, effectivement, il y a toujours un gagnant dans une guerre. Maintenant, je ne veux pas penser, ça me semble quand même exagéré.
Mais là, Karine Bechegolovko, parce qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant dans les déclarations des régions occidentaux, notamment européens, qui pensent qu'il suffit juste de mettre de l'argent sur la table et par un claquement de doigts magique, comme ça, les milliards qui sont mis sur la table se transforment tout de suite en armes, parce que les Ukrainiens, ce dont ils ont besoin, c'est pas le sou, c'est les armes pour combattre. Et l'argent, il se transforme pas tout de suite comme ça. Il faut l'envoyer en armement.
Tout à fait, il faut le produire aussi.
Il faut le produire. Et là, moi, c'est que quand je vois l'un des grands, chefs d'entreprise d'armement américaine, Greg Hayes, qui dirige l'entreprise Watine dans l'armement, notamment pour les moteurs et tout, il dit qu'une très, très grande partie de ce dont on a besoin pour faire nos moteurs, pour faire ce dont nous pouvons après équiper les armées, vient de Chine.
Alors maintenant, on peut aussi se poser un peu la question sur la place de la Chine dans ce monde global aussi, parce qu'on ne va quand même pas surestimer non plus le caractère anti-globaliste de la Chine.
Philanthropique.
Voilà. La Chine a été conçue justement dans ce monde global comme la zone industrielle. C'est la zone de production de ce monde. Et ça lui va très bien. On se souviendra quand même que lors de tout ce délire autour du Covid qui a quand même massacré les économies européennes et les sociétés, etc., ce fanatisme aussi est parti, globaliste, est parti de Chine, a été entretenu par la Chine. Toute l'OMS félicitait la Chine pour sa politique du zéro Covid. Tous ces délires QR code, surveillance numérique, etc., ça vient de Chine. C'est-à-dire quand même que toute une grande partie des piliers du monde global sont portés par la Chine. Que concrètement la Chine ait aussi certains intérêts avec la Russie, c'est une réalité. Donc, c'est un allié tactique qui peut, sur le plan politique, effectivement, avoir un intérêt. L'intérêt de la Chine, c'est de limiter la domination américaine dans ce système global afin d'y garder, d'y préserver ses intérêts et surtout afin de limiter un peu le côté va-t-en-guerre de ces nouvelles, enfin, de ces élites qui sont de plus en plus radicales, ces élites globalistes. La Russie va devoir réfléchir aussi. Qu'est-ce qu'elle aurait à proposer à la Chine dans la construction d'un monde post-globalisation? Si la Chine peut trouver son intérêt dans ce monde post-globalisation, dans ce cas-là, elle peut retenir le canif. Si elle n'y trouve pas d'intérêt, à mon avis, elle va essayer de le planter, le canif. La sécurité, je dirais, des Occidentaux, elle n'est pas hypothéquée, elle est interdépendante, en fait. C'est tout ce groupe globaliste qui sont répartis, en quelque sorte, les différents
D'accord.
aspects.
D'accord.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve très vite en compagnie de mon invité Karine Bechegolovko pour la seconde partie de notre émission. À tout de suite.
Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, Zone de contact et Marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Karine Bechegolovko, professeure de droit, invitée à l'Université d'État de Moscou. Karine Bechegolovko, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Je vous en prie, c'est avec plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Bien. Alors, les déclarations de plus en plus incohérentes, je dirais, des responsables occidentaux montrent qu'ils sont carrément paniqués face à la capitulation imminente de l'Ukraine face à la Russie. Et c'est la surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas visiblement. Donc, et puis, quelle était l'importance de l'Ukraine sur l'échiquier géopolitique des puissances occidentales ? Et on a... En avril 2023, le président polonais Mateusz Morawiecki, donc celui qui a été le président de 2007 à 2023, a dévoilé cet état d'esprit dans un discours télévisé lorsqu'il a déclaré « Si nous perdons l'Ukraine, nous perdons le monde pendant des décennies. La défaite de l'Ukraine pourrait marquer le début de la fin de l'âge d'or de l'Occident. » Fin de citation. Bien. Alors, Karine Bechegolovko, à la lumière de ces propos, comment voyez-vous les déclarations de l'actuel président de la Pologne, Duda, sur la possibilité de recevoir des armes nucléaires US sur le sol polonais dans le cadre du programme Partage nucléaire, Nuclear Sharing?
Alors, tout d'abord sur la question de la capitulation imminente de l'Ukraine. Pour capituler, il faut être un sujet. Un front, il capitule pas.
Ouais.
Il recule, il avance, mais il capitule pas. Donc, le problème, c'est de voir effectivement ce front, pour, du point de vue des Atlantistes, reculer de plus en plus vers Kiev. Mais il n'y a pas la question de la capitulation est objectivement absolument impossible. Mmh. On a vu de toute façon quand la Russie a essayé de négocier au début du conflit, l'Ukraine peut dire ce qu'elle veut, finalement à la fin elle fera ce qu'on lui dira de faire. Donc de toute façon il n'y a pas d'autonomie de volonté politique qui permet de prendre une décision de capitulation ou de continuation du conflit. Les Ukrainiens font malheureusement, en tout cas pour ceux qui sont obligés d'y aller, ce qu'on leur dit de faire. Point. En revanche, effectivement, les déclarations de l'ancien président polonais sont extrêmement intéressantes. Parce que si on regarde un peu le vocabulaire utilisé, nous perdons l'Ukraine. Nous, c'est qui ?
Nous.
La Pologne, elle perd l'Ukraine ? La Pologne, elle maîtrise pas l'Ukraine. C'est vrai de ma part. Mmh. Si, dans la logique, en tout cas, de la rhétorique occidentale, la Pologne et l'Ukraine sont deux pays indépendants l'un de l'autre. Donc, nous perdons quoi ? Nous, c'est qui ? C'est ce monde global, finalement. Et donc, quand ensuite, ils diront que nous perdons le monde pendant des décennies, oui, dans ce cas-là, ils risquent de perdre. Le monde global risque de prendre un coup, de s'affaiblir éternellement. Il risque de pouvoir tomber s'il perd cette guerre en Ukraine. Mmh. Donc, on voit bien le côté existentiel de la guerre en Ukraine pour l'ordre globaliste existant. C'est difficile de dire cet ordre parce qu'il est insaisissable, il est un peu partout, il est un peu nulle part. Donc on ne sait pas très bien par où l'attacher, où l'attraper, comment le faire tomber, comment le saisir. Il est ainsi, et c'est sa force. Mais on comprend très bien qu'un de ses centres vitaux, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, ce n'est pas l'Afghanistan. Ils ne peuvent pas se retirer tranquillement d'Ukraine comme ils sont retirés d'Afghanistan et finalement la vie, elle continue pour eux, ça n'a pas changé grand-chose. Là, c'est un centre vital. Et ça, ça se sent. Donc, il faut absolument avancer et de façon beaucoup plus forte, de façon beaucoup plus visible, et peut-être aussi arrêter de parler systématiquement de négociations actuellement sur ce centre vital. S'il y a la guerre, il faut la gagner. Ouais. Après, on discute des conditions de la paix, mais d'abord, il faut gagner une guerre. Sinon, il n'y a pas derrière de paix stable et durable qui puisse être mise en place. Donc, dans ce contexte, effectivement, on s'inquiète un peu des déclarations de la Pologne, puisque la Pologne non plus n'est pas une entité particulièrement autonome dans ce monde global. Ouais, ouais. On va dire que c'est la place d'armes avancée de ce système atlantiste, et avec une bonne dose de fanatisme, malheureusement, ce n'est pas la première fois. Donc, dans l'histoire. Donc, il y a effectivement la nécessité, face aux difficultés militaires objectives sur le front ukrainien, et en tout cas la tentation de passer à un degré supérieur de dissuasion. Et on en arrive à la question du déploiement d'armes tactiques nucléaire en Ukraine, c'est-à-dire se rapprocher de la Russie. Ça ne peut pas rester sans réponse, puisque c'est une déclaration politique plus que d'utilité militaire, ce qu'a fait la Pologne. C'est-à-dire qu'elle déclare qu'il est possible de passer à un autre stade de conflit. Ce programme prévoit quoi ? Ce programme prévoit le déploiement en Europe, et en tout cas dans des pays membres de l'OTAN, d'armes nucléaires pour ces pays qui ne sont pas détenteurs de l'arme nucléaire. En Europe, rappelons que la France est le seul pays qui soit détenteur de l'arme nucléaire. Or, déjà, il y a quand même plusieurs dizaines de têtes nucléaires qui sont déployées en Allemagne, en Italie, etc. Et la Pologne veut devenir également une place avancée. Alors, il ne faut pas oublier aussi que la Russie a rappelé que dans ce cas-là, elle devient une cible prioritaire. Ouais. C'est normal. Elle présente un danger vital pour la Russie. Elle devient une cible prioritaire. Je suis quand même toujours surprise par le degré de fanatisme des élites globalistes actuelles, cette capacité qu'ils ont à mettre en péril leur pays, à oublier leur intérêt national, à tout sacrifier pour protéger l'hégémonie de ce monde global. C'est quand même quelque chose d'absolument surprenant, c'est cette capacité de ce monde global à avoir produit des élites complètement fanatiques.
Mmh. D'accord. Bien, alors, pour continuer dans la même lancée, en novembre 2023, le député de l'Union chrétienne démocrate CDU, Johann Wadephul, a déclaré aux médias que la capacité de combat des forces armées allemandes avait été sérieusement affaiblie par les pénuries causées par l'approvisionnement continu de matériel et de munitions à Kiev. Donc, je le cite, il dit « Des unités de troupes cruciales ne peut durer que 2 jours au maximum dans une bataille et c'est une découverte globalement catastrophique. Les autres pays de l'OTAN ne sont probablement pas dans une meilleure situation malgré les discours injurieux en cours sur la façon dont l'Ukraine a détruit, entre guillemets, 50% de la puissance militaire de la Russie, a repris, entre guillemets, 50% du territoire détenu par la Russie, tout cela pour quelques centimes de dollars des budgets de défense de l'Occident, etc. » Fin de citation. Alors, Karine Bechegolovko, partant de ce constat, comment expliquer la décision du gouvernement allemand d'instaurer une base militaire permanente de quelques milliers d'hommes en Lituanie?
Il faut comprendre aussi que les déclarations ne doivent pas être prises au premier degré. Comme toute déclaration est ce qu'on appelle un acte de langage. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a un sens, une signification qui vont au-delà des mots qui sont prononcées. Pour comprendre la signification de toute déclaration politique, il faut comprendre le contexte, hein, il faut comprendre les enjeux et la personne qui les fait. L'Allemagne. L'Allemagne est quand même le pays qui a perdu la Seconde Guerre mondiale et qui en a été l'initiateur. C'est le pays aussi qui a produit le nazisme, hein, qui est aujourd'hui sous une forme différente, enfin d'une certaine manière, mais aussi sous une forme différente, repris dans les pays baltes, extrêmement présent en Ukraine, et cette espèce d'idéologie du surhomme et de l'exception est malheureusement de plus en plus diffuse, comme on le voit en Occident. C'est un pays qui a un besoin de revanche, manifestement. À nouveau, on est à nouveau dans la logique de la revanche, du retour sur la scène internationale. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne va ouvrir une base militaire à l'étranger.
D'accord.
Avec des militaires allemands. Mmh. Donc, nous sommes en quelque sorte dans cette logique de remise en cause des acquis de la Seconde Guerre mondiale, et le discours des hommes politiques à l'intérieur du pays le montre, surtout lorsqu'ils ont dit clairement qu'on change de matrice politique. Mmh. Donc, c'est fini, la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Il n'y a plus de culpabilité pour tout ce qui a été fait, c'est terminé. La page est tournée, nous pouvons commencer une nouvelle guerre. Tout va bien. C'est un peu l'impression que ça donne. Après, en ce qui concerne très concrètement de cette dimension politique et géopolitique, en ce qui concerne très concrètement la question de la production d'armes. Souviens-toi que les États-Unis aussi, non-stop, nous disent qu'ils n'ont plus assez d'armes, il n'y a plus assez d'armes. L'Allemagne produit à peu près le même discours. Alors, c'est le seul pays d'Europe qui a quand même plus ou moins gardé l'industrie, puisque justement, il était sous protectorat américain. Soyons réalistes, c'est aussi un moyen pour développer le financement de l'industrie militaire allemande. Donc, pour relancer l'industrie militaire allemande.
Il faut créer le besoin, comme on dit.
Voilà, vous créez le besoin. Une fois qu'il y a le besoin, vous pouvez financer la production.
Contrôler les moyens.
Voilà. Donc, il y a tout ce discours qui accompagne la transformation des sociétés, principalement aux États-Unis et en Allemagne en ce qui concerne l'industrie, en France aussi, mais un petit peu moins, parce que la France a été quand même très, très fortement postmodernisée et sa société a été extrêmement affaiblie, sans parler même de ses capacités de production. L'école ne ressemble strictement plus à rien, donc il y a un vrai problème de formation derrière. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Allemagne et les États-Unis, il y a une retransformation des sociétés qui sont militarisés et qui par la même sont remasculinisés. Et ça, c'est un changement qui est extrêmement important aujourd'hui et qui explique aussi, voilà, maintenant, on va redominer en Europe. Et on sent voir une espèce de, en tout cas pour la zone européenne, une répartition des rôles entre la France et l'Allemagne. La France qui a ce rôle politique, beaucoup, on se souvient Macron qui envoie des hommes, etc., qui lance, etc., qui a ce rôle d'initiateur politique de la transformation, parce que la France, elle, justement, n'a pas ce passif nazi qu'à l'Allemagne. Donc, il n'y a pas la même, on va dire, c'est pas les mêmes assimilations d'idées qui se font derrière avec la rhétorique. L'Allemagne peut pas dire on va envoyer des hommes, etc., parce que ça rappelle un petit peu l'histoire quand même. Mais l'Allemagne, elle, a ce rôle beaucoup plus en profondeur, justement, de gestion de l'intendance, en quelque sorte, de ce conflit globaliste sur la zone européenne.
D'accord. Bien, alors, détaillons un peu encore les choses par rapport à cette question. Alors, en décembre 2023, les ministres allemands et lituaniens, justement, décident de l'ouverture de cette base militaire allemande en Lituanie d'ici 2027. Et cette base va devoir comprendre près de 5000 hommes, dont 4800 militaires, sans compter les blindés, tous les équipements nécessaires. Il s'agit de la 45e Panzerbrigade. Et une vingtaine de militaires allemands viennent d'arriver afin d'apprécier l'infrastructure et de préparer l'établissement de base. Et d'ici la fin de l'année, 150 autres doivent encore les rejoindre afin d'accélérer le travail. Bien. Alors, Karim Bechegolovko, ici une question par rapport à ce que vous venez de développer dans, juste là. Comment analysez-vous cette évolution dans la Manne dans le cadre des accords ayant mis fin à la Seconde Guerre mondiale et des accords de règlement de statut final ayant permis la réunification de ce pays dans le contexte du démembrement de l'URSS? Surtout sur cet aspect-là, est-ce que cette attitude de l'Allemagne, ici j'ai bien compris, c'est que, je ne sais pas, j'aimerais aussi avoir votre avis, c'est qu'on a battu le régime nazi, mais le nazisme en tant que culture, en tant qu'idéologie, n'a pas été totalement vaincu, puisque facilement on peut comme ça redécoller dans les mêmes aspirations.
Non, il y a plusieurs aspects là. Votre question est quand même très complexe, très générale. Oui. Si on y va par morceaux, ce qui concerne d'abord la question du nazisme. Il y a une incompréhension fondamentale lorsque l'on parle du nazisme dans la manière dont la Russie en parle et dans la manière dont on en parle en Occident. En Occident, lorsqu'on parle du nazisme, c'est ce qui est fini, de toute façon, avec la Seconde Guerre mondiale. Point. La question a été réglée et ça n'existe plus parce que c'était très concrètement
lié à l'Allemagne.
Voilà, à l'Allemagne, contre les Juifs, contre les pays slaves, et point. Et c'est, je veux dire, un discours qui est extrêmement confortable. Parce que ça permet de limiter dans le temps et de faire de la rupture historique, ce qui est quand même une tradition en Occident, c'est de séquencer le temps historique et de nier en quelque sorte tout ce qui était avant. Ce qui était avant, c'était, ça ne sera plus, ça n'est plus, puisque déjà c'est passé.
C'est-à-dire qu'on nie l'existence des idées, des mêmes idées.
Tout à fait. Et on évite le côté de résurgence, parce qu'on ne veut pas le voir. La Russie a une conception fonctionnelle du nazisme. Quel était le nazisme dans sa dimension fonctionnelle? C'est le droit de certains peuples qui se reconnaissent supérieurs à d'autres. On voit ça dans le suprémacisme, ce qu'on appelle aux États-Unis. Il y a cette utilisation de cette conception suprémaciste au niveau des structures étatiques. On le retrouve en Ukraine. Toutes ces lois contre la culture russe, contre la langue russe. Lorsque l'on dit que les Russes, quand Parachenko disait que les enfants du Donbass iront crever dans les caves et que les enfants à Kiev iront jouer dans la rue, on le retrouve. Mais on retrouve ça aussi dans le conflit entre Israël et Gaza, avec toutes les déclarations des dirigeants israéliens disant que les Palestiniens sont des animaux évolués, etc. Il y a une résurgence réelle du nazisme dans sa dimension fonctionnelle. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que si on ne fait pas le lien temporel, on n'accepte pas de voir le danger revenir. Et si on le prend dans sa dimension fonctionnelle, au-delà du terme, parce qu'il faut bien mettre un nom sur les choses, c'est un problème de conflit entre les hommes qui ne peut pas être lié à la période des années 30, 40. C'est un problème qui est intrinsèque à la nature humaine, ce besoin de domination et d'exterminer l'autre s'il empêche son pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui peut être géré dans la mesure où il est reconnu comme un problème et comme un danger pour l'humanité. Et ça a été le cas lors de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est allé trop loin. Mais il ne faut pas oublier que ça a commencé doucement. Si on ne prend pas garde à ce qui est en train de se développer aujourd'hui, ça va dévorer complètement les sociétés occidentales, ça va dévorer l'homme de l'intérieur, parce que moralement, on ne peut pas rester un être humain avec cette idéologie.
Absolument.
Ça, c'est pour le côté idéologique de la chose. Ensuite, sur le plan juridique, effectivement, oui, ce qu'on vient de dire, il y a une nullification de l'après-Seconde Guerre mondiale. Nullification totale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait ce côté, une certaine protection mise en place d'un certain équilibre, etc., même qui avait été mis en place et derrière aussi lors de la réunification de l'Allemagne, qui avait été un prolongement lorsque il avait été prévu justement le non-déploiement des armes sur le territoire est allemand, le fait que l'Allemagne doive être un pays souverain, et que tous les acteurs doivent contribuer à la souveraineté de l'Allemagne. On voit que ce n'est pas le cas, puisque l'Allemagne a été complètement instrumentalisée par les États-Unis dans ce combat globaliste. Donc, il y a effectivement, oui, tous ces accords qui sont remis en cause petit à petit, parce que cette époque est terminée. Le droit n'existe que dans la mesure où vous avez une force politique et une force physique presque, qui est capable de faire respecter les règles de droit. Les règles de droit ne pourront pas exister en elles-mêmes. Mmh. Le code d'Hammurabi, vous pouvez toujours le lire, mais il n'existe plus. Mmh. Mais vous pouvez le lire.
Absolument.
Ces règles, vous pouvez les lire, mais elles n'existent plus. Parce qu'il n'y a plus cette force politique qui permette de les faire respecter. Et cela déborde donc effectivement sur les autres aspects du règlement post-Seconde Guerre mondiale, la question de la neutralité. La Finlande, la Suède qui rentrent dans l'OTAN. C'est la fin de la neutralité. La neutralité suisse aussi, on peut se demander ce qu'il en reste
un petit peu.
Absolument. Il n'en reste plus rien, même la Suisse n'est plus un pays neutre, fini. On ne va pas aller à cette conférence qui n'est pas une conférence de paix, parce que ça ne correspond à rien. Et la Suisse n'est plus...
Je rappelle que c'est une conférence où l'on convie, soi-disant, les acteurs qui sont mêlés dans le conflit ukrainien, mais sans convier le principal, la Russie. Donc,
si la Russie était conviée, de toute façon, la question à l'ordre du jour, c'est la question de la capitulation de la Russie, ce n'est pas la question de la paix.
Oui.
Donc, et on va être honnête, tant qu'un conflit n'est pas épuisé, on peut discuter autant qu'on veut, on peut préparer l'après. D'abord, il faut le gagner. Et quand les gens disent, quand les acteurs lors de la Seconde Guerre mondiale s'étaient rencontrés à Téhéran, c'était pas pour organiser la paix le lendemain, c'était pour préparer l'après-guerre. Maintenant, on ne peut préparer que l'après. On ne peut pas poser un accord de paix. C'est ridicule. Il faut pas confondre le problème de la temporalité. Et en ce qui concerne derrière ce conflit, donc, prend de plus en plus, cette remise en cause reprend de plus en plus prend de plus en plus d'ampleur et atteint d'autres zones.
D'accord. Bien. Alors, la dernière question de cette émission, Karine Bechegolovko, on a l'état-major interarmé des États-Unis a publié le 10 février 2023 sa doctrine qu'il appelle du concept commun de la compétition stratégique. Alors, ce document, préfacé et signé par le chef de l'armée américaine, le général Mark Milley, décline la stratégie et les moyens de guerre hybride dont la force militaire n'est qu'une partie du dispositif qui devrait être déployé par une force combinée interarmée afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie stratégique sur tous leurs concurrents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la lecture de ce document, il apparaît que les stratèges américains, d'abord, estiment qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne seront pas capables ou ne seront pas en mesure probablement de se lancer dans une guerre sur deux fronts avec la Russie et la Chine. On peut rajouter maintenant l'Iran. Et ainsi, il préconise de déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages. Et donc, il pour tirer profit un maximum. Pourquoi les Occidentaux veulent à tout prix préserver leur hégémonie devenue plus que illusoire? Deuxième question, et qui nous intéresse, et ça parce que ça devient de plus en plus important, c'est la récente attaque contre la Géorgie qui vient de passer une loi sur le contrôle des organisations financées de l'étranger. À votre avis, cette attaque entre-t-elle dans ce cadre du nouveau concept où on utilise les forces hybrides au lieu des forces armées, donc ce qui peut faire courir le risque de créer un autre front, en plus du front ukrainien?
Non, en ce qui concerne la première question, les Occidentaux n'ont pas le choix, puisque en Occident, ce sont les globalistes qui sont au pouvoir, et s'ils ne contrôlent pas, il tombe. Donc, a priori, aucune élite n'a envie de se suicider volontairement, sauf si elle n'a pas le choix. Donc, pour l'instant, ayant le choix, ils préfèrent continuer à se battre pour préserver leur pouvoir. Je pense que c'est ça, pour le coup, c'est quand même extrêmement simple, extrêmement clair. En ce qui concerne la question des combats, Je ne crois absolument pas du tout à la possibilité même théorique d'une confrontation militaire directe entre les États-Unis et la Chine. À mon avis, cela relève totalement de la fantasmagorie. Mmh. En revanche, oui, Taïwan peut être utilisé pour titiller et embêter la Chine, et cela ressort d'ailleurs de la question des financements octroyés, on voit, entre Ukraine, Taïwan et Israël. Le combat est un combat économique. Ce n'est pas un combat de guerriers entre les États-Unis et la Chine, c'est un combat de marchands. Donc, c'est la question de la répartition des, on va dire, des bénéfices. Le vrai combat, c'est pas la Chine. Le vrai combat, c'est et ça reste la Russie et l'espace post-soviétique, qui est un espace fondamental parce que, on l'a déjà dit, le monde occidental a tendance à vouloir séquencer l'histoire, c'est-à-dire à nier que l'Ukraine, par exemple, a un millénaire d'histoire commune avec la Russie. Ok, elle a 30 années d'indépendance, mais elle a un millénaire d'histoire commune. Mmh. Et c'est pareil, des siècles d'histoire commune, bon, avec la Géorgie dont vous parliez. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit en Géorgie, effectivement, l'application directe de cette stratégie de la guerre hybride. Mais on ne la voit pas qu'en Géorgie, on la voit dans tout l'espace post-soviétique. Hein. Sauf qu'en Géorgie, il y a plus de réactions. On le voit dans les pays d'Asie centrale aussi, puisque quand même le Kazakhstan a été extrêmement bien pris en main de l'extérieur.
La Biélorussie aussi, à un certain moment.
À un moment aussi, mais heureusement, elle s'est réveillée. La Kirghizie est quasiment aussi sous domination. Mais malgré ça, ces peuples ayant des siècles de relations avec la Russie, entretiennent quand même des relations même actuellement, malgré l'emprise américaine. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils nient ce côté historique commun. Et le problème, effectivement, c'est que les ressources américaines sont limitées. C'est-à-dire que quand ils ont mis énormément de ressources dirigées vers la Géorgie, on a vu effectivement Saakashvili, cette révolution des roses et l'arrivée de ces élites globalistes qui, d'ailleurs, partout quand elles arrivent, ont provoqué un conflit, ont affaibli le pays. Cela a entraîné la question aussi de l'intervention militaire russe en défense des territoires dans le cadre des accords internationaux qui ont été conclus dans l'espace post-soviétique au début des années 90. Donc, il y a à chaque fois en Ossétie, etc. On voit à chaque fois ces zones qui, dès que les élites globalistes commencent à lever la tête, qui veulent se sauver vers la Russie parce qu'ils n'ont pas le choix. Et quand les États-Unis et les forces globalistes ont mis de plus en plus de force vers l'Arménie avec Pachinian, parce que ça n'a pas été facile quand même pour intégrer, pour faire tomber l'Arménie, qui avant était beaucoup plus amicale avec la Russie que la Géorgie n'était, maintenant est devenue dans un système de suicide collectif absolument inquiétant. Et avec l'Ukraine, ils ont levé objectivement un petit peu la force, la pression sur la Géorgie, parce qu'il n'y a pas les moyens pour travailler partout. Autant.
D'accord.
Et on a vu les forces naturelles politiques qui se reviennent, qui se reconstituent parce que ça fait des patriotiques parce que ça fait des siècles qu'elles existent. Et vous pouvez travailler un petit peu et implanter des ONG, vous pouvez travailler avec la société civile, vous pouvez acheter des députés, mais vous pouvez mettre en place une présidente qui est française en fait et qui travaille à l'ONU. Mais vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, contrôler en profondeur toute la vie politique tout le temps. Ce n'est pas vrai. Ou alors, il faut détruire le pays comme vous le faites en Ukraine. Voilà. Et il y a donc cette résurgence par les élites géorgiennes de l'instinct de survie politique. Comprenant très bien, ils l'ont dit très clairement, on ne veut pas finir comme l'Ukraine. On ne veut pas. Donc, on ne veut pas être un territoire de jeu de ces élites globalistes, atlantistes. Et ayant très bien compris que le problème, c'est la question du financement des médias qui formatent l'opinion publique et des organisations, la société civile, les ONG, les fondations, etc., qui vont permettre d'organiser des manifestations sur commande, et qui sont financés pour cela, la Géorgie, pour la deuxième fois, essaie de faire passer la loi sur les agents étrangers, c'est-à-dire une loi selon laquelle, quand les médias ou les ONG perçoivent plus de 20% de financement étranger, simplement, ils doivent le déclarer. C'est tout. On ne les empêche pas de travailler. On les interdit. Simplement, ils doivent le déclarer. C'est une loi qui va beaucoup moins loin que la loi américaine qui a été adoptée dans les années 30, puisque la loi américaine, ça prévoit quand même une responsabilité pénale, des amendes phénoménales, il peut y avoir des mesures préventives d'interdiction d'activité par le procureur, etc. Donc, c'est une loi qui est quand même très calme. Mais ça, évidemment, ça ne supporte pas. Et ce qui est très significatif, c'est que l'ambassade américaine, il y a un an de cela, lors de la première tentative d'adoption de la loi, qui a d'ailleurs conduit quand même à la démission obligée du Premier ministre à l'époque, géorgien, et au retrait de la loi, l'ambassade américaine déclarait « Si cette loi est adoptée, on ne pourra plus travailler dans la société géorgienne ». Ça, c'est un aveu quand même. Donc c'est ça, la démocratie, entre guillemets, globaliste. Absolument.
On dirait tant mieux.
Mais c'est un combat existentiel, on le voit. C'est que ce système globaliste ne peut fonctionner que par la manipulation d'un côté des sociétés, comme on le voit avec ses travaux, ou par la force et la dissuasion. C'est pas un système démocratique. C'est un système de logique totalitaire.
D'accord. Bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Karine Bechegolovko, c'est encore un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous.
C'était Karine Bechegolovko, professeure de droit invitée à l'Université d'État de Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.